Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Pendant une heure, nous allons vous informer et partager des conseils pour améliorer votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons demander comment profiter de l'été pour nous remettre au sport, comment nous motiver, par quelle activité commencer quand on est resté notamment longtemps sédentaire, quelle est la fréquence, quel est le moment idéal pour s'entraîner. Nous verrons tout cela avec notre invité Stéphane Casqua, qui est médecin du sport à Paris. Comme tous les jours, pour m'accompagner tout au long de cette émission, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, est à mes côtés en studio. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous parlerez de sexologie un peu avant 16h et vous avez aussi des conseils pratiques à nous proposer pour la santé du quotidien. De quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, nous allons parler en sexo d'une grande angoisse masculine, la taille du pénis.
Ah oui, pareil.
Eh oui, bah oui. Dans les petits bobos de l'été, on va évoquer les crampes.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Soyez les bienvenus dans votre émission santé Sans Rendez-vous.
Anne Le Gall vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et pour démarrer, on commence par évoquer donc les petits bobos du quotidien, pas forcément graves, mais gênants ou douloureux, et pour lesquels les conseils sont toujours bons à prendre. Aujourd'hui, Damien Mascret, ça va avec le thème de l'émission. Vous nous parlez des crampes. C'est vrai que c'est agaçant, les crampes.
Bah oui, c'est un petit bobo, mais c'est quand même très pénible. Alors la crampe, c'est quoi ? C'est une contraction du muscle, brutal, hein. Le plus souvent c'est au mollet ou au pied, et le problème c'est qu'on n'arrive pas à décontracter le muscle, hein. Il devient dur, c'est douloureux, enfin en tout cas tant que ça reste contracté, hein, ça va durer quelques secondes, mais parfois ça peut durer plusieurs minutes. Alors habituellement ça survient après un effort violent ou prolongé, hein. C'est la crampe typique du footballeur pendant les prolongations, mais on peut aussi en avoir la nuit.
Alors moi, je ne connais pas la crampe du footballeur, mais la crampe la nuit, je connais, ça nous réveille d'un coup, alors qu'on n'a pas spécialement bougé. Ça vient d'où, la crampe ?
Alors, il y a plusieurs explications, hein. La crampe, d'abord, ça peut être le manque d'oxygène, bien sûr, pendant l'effort, s'il est trop intense ou prolongé. Même si on respire beaucoup plus vite, eh bien, finalement, la demande d'oxygène est dépassée au niveau des cellules musculaires. Parce qu'en principe, quand vous faites un effort musculaire, votre cerveau envoie évidemment un signal aux muscles, il y a des nerfs moteurs pour faire ça, pour que les fibres musculaires glissent les unes par rapport aux autres. Ça va raccourcir la taille, la longueur du muscle, hein, d'environ un tiers. Et puis ensuite, bien sûr, le muscle revient à sa position normale. Quand vous courez, par exemple, les muscles alternent, hein, dans vos mollets, ça se contracte, ça se décontracte. Mais pour faire ça, bien sûr, vos muscles ont besoin d'oxygène. Et voilà pourquoi aussi, il faut éviter de bloquer sa respiration. Il faut bien respirer pour contrecarrer l'effet et notamment la douleur de la crampe qui parfois empêche de respirer. On bloque sa respiration, c'est ce qu'il ne faut pas faire.
Donc on respire et on s'étire aussi, non ? Ça, c'est une solution qu'on voit sur les terrains de foot, justement.
Ah, bah voilà, voilà. Vous savez, les footballeurs qui sont allongés, qui ont la jambe levée, qui ont un petit camarade qui vient maintenir le pied en flexion dorsale. C'est l'inverse de quand vous vous mettez sur la pointe des pieds. La flexion dorsale, c'est quand vous relevez l'avant du pied.
On étire le mollet.
Voilà. Vous le sentez quand vous le faites. Si vous êtes assis et que vous relevez l'avant du pied vers le haut, vous allez bien sentir que ça tire dans vos mollets. Bah, c'est exactement ce qu'on fait quand on a une crampe au mollet. On étire le muscle.
Qu'est-ce qui peut déclencher encore une crampe ?
Déjà, pendant le sport, la troisième explication, c'est lié à la transpiration. Bien sûr, quand vous faites un effort important, vous transpirez.
On évacue des minéraux. D'accord.
Alors, le but, c'est surtout d'éliminer la chaleur en excès dans le corps. C'est pour ça qu'on transpire. Mais dans la sueur, effectivement, il y a des oligo-éléments. Il y a du magnésium, il y a du potassium, il y a du calcium. Et quand il y a des pertes excessives, eh bien, ça perturbe le fonctionnement des muscles. Ça favorise les crampes. Il peut y avoir aussi des déséquilibres métaboliques, notamment du calcium, ou des désordres hormonaux comme l'hypothyroïdie qui peuvent causer des crampes à répétition. Il y a aussi bien sûr les maladies musculaires. De toute façon, quand vos crampes se répètent de façon inhabituelle, évidemment qu'il faut consulter.
On a une question au sujet du magnésium, une question d'auditrice. Elle s'appelle Karine.
Moi, je voudrais savoir, on dit souvent en fait que quand on a des crampes la nuit, etc., il faut prendre du magnésium. Est-ce que ça marche réellement ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire concernant les crampes ?
Le magnésium, alors, on en prend ?
On n'a pas démontré que prendre du magnésium évitait les crampes, mais en tout cas, on sait que quand on est carencé en magnésium, ça peut les favoriser. Alors, en principe, Karine, si vous avez une alimentation équilibrée, avec notamment du pain complet, des noix, des fruits oléagineux, il y a peu de risques d'être carencé. Parfois, les médecins, c'est vrai, recommandent des cures de magnésium. Alors, attention, à condition de ne pas dépasser 400 mg par jour, et d'arrêter si vous avez mal au ventre ou une accélération du transit.
Oui, c'est gênant, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les crampes banales ?
Alors, d'abord, il faut boire de l'eau avant, pendant, après l'effort. On en reparlera probablement dans un instant. Vos muscles ont besoin d'oligo-éléments, on l'a dit. Le magnésium, on en a parlé. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Alors, l'eau apporte l'hydratation indispensable au bon fonctionnement des muscles et à l'élimination de la chaleur. Ça, c'est clair. Mais il faut aussi éviter de fumer avant l'effort. Alors, pendant, je n'en parle même pas, mais avant l'effort et même dans la récupération ensuite.
De façon générale.
Et de façon générale, vous avez raison, Anne. viennent parce que vous perturbez la microcirculation dans le muscle. Or, c'est celle-là qui va apporter les nutriments. C'est ça dont on va avoir besoin ensuite pour bien récupérer et pour que votre muscle se répare, parce qu'il souffre un petit peu quand on fait des efforts.
On le note. Merci beaucoup pour ces conseils, Damien Mascret.
Europe 1.
À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré à notre remise en forme cet été. Vous vous êtes un peu empâté ces derniers mois. Vous avez envie de prendre de bonnes résolutions, de vous sentir plus tonique. Si vous êtes motivé pour reprendre une activité physique cet été, restez avec nous. Stéphane Casqua, médecin du sport, va nous donner le mode d'emploi dans un instant.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Santé et bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité du jour, avec qui nous allons parler des bienfaits de l'activité physique et des conseils pour s'y mettre ou s'y remettre cet été. Bonjour docteur Stéphane Casqua.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin du sport à Paris. Alors, les Français ne sont pas les plus sportifs parmi les Européens. En tant que médecin du sport, qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, je vois beaucoup de sportifs qui font trop de sport.
Ah, oui, parce vous êtes vraiment spécialisé dans les... Oui.
Alors, on dit en effet que les Français ne sont pas assez actifs. Et en plus, je crois que la barrière est mise très, très basse. C'est-à-dire qu'on considère que 30 minutes de marche active par jour, c'est bénéfique pour la santé. En fait, on est au début du commencement des prémices des bienfaits.
Mmh. Voilà.
C'est à ce moment-là qu'on voit se réduire le taux de diabète, la surcharge pondérale. Globalement, l'activité physique, telle qu'elle est décrite sur le plan institutionnel, elle est insuffisante. Parce qu'on ne peut pas vanter les mérites du sport quand on est au gouvernement, parce qu'on n'aurait pas d'infrastructure pour accueillir tous les citadins dans des piscines et dans des tennis au petit matin. Donc on prône l'activité physique. Mon message à moi, c'est que ce n'est pas suffisant et qu'on a bien d'autres bénéfices en faisant un peu de sport, moins longtemps. Et quand on fait
du sport,
au lieu de faire de l'activité physique, on gagne du temps. Il suffit de s'organiser. Un vélo d'appartement, un elliptique à la maison, si vous en faites 30 minutes, ça va vous prendre 35 minutes et vous mettez votre pyjama dans la panière à un châle et c'est fini. Et c'est la même douche pour le sport, c'est la même douche que pour la journée.
Parce que c'est ça, on a plein de raisons de ne pas faire de sport pendant l'année, notamment le manque de temps. Donc vous dites finalement c'est rien, c'est une demi-heure.
Oui, c'est 3% du temps éveillé. Et il y a une grande étude faite par l'INSERM sur le comportement des Français et c'est extrêmement simple. Quand on croise les dizaines de questions, ceux qui disent ne pas avoir le temps de faire du sport sont ceux qui regardent le plus la télévision. Donc il faut juste hiérarchiser. Le matin, ça peut être tôt. Mais si vous réduisez votre téloche le soir, la demi-heure ou les trois quarts d'heure, vous allez les gagner très facilement.
Quels sont les bénéfices à court terme et à long terme de la pratique sportive régulière?
Alors, les bénéfices à court terme, c'est vrai que ça donne de l'énergie parce que... En fait, le système nerveux central réduit sa température pendant la nuit. Et si vous augmentez votre température corporelle, vous allez réveiller votre cerveau.
Donc vous dites le sport le matin, c'est
oui,
bien.
Je pense que je dis de bonne heure, c'est le bonheur. Parce que ça enclenche la journée. En effet, pour cette question d'élévation de la température et pour cette question de programmation gestuelle. Parce que le mouvement, c'est une intelligence gestuelle. Donc, vous allez enclencher une activité cérébrale. Et tous les gens qui font du sport le matin disent qu'en effet, ils sont quand même plus éveillés et plus agréables au boulot.
Damien Mascret.
Oui, alors justement, j'ai une question pour ça. Est-ce qu'on peut se passer d'un petit déjeuner avant? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Commence à sec.
À jeun ou pas?
Bien évidemment, aucun souci. Une raison scientifique, c'est que le sucre que vous stockez dans votre muscle, le glycogène, il est fait pour le muscle. C'est-à-dire qu'il est pas mobilisable pour régulariser le taux de sucre dans le sang. Ce glycogène-là, il est dans le foie. Donc, quand vous vous réveillez le matin, vous avez réduit un peu votre taux de sucre dans votre foie, mais votre taux de sucre dans vos muscles, il est parfait.
Donc il ne se passera rien.
Et si on fait des séances intenses, par exemple, ce qu'on peut faire, on va libérer de l'acide lactique. Et cet acide lactique, il va passer dans le sang, il va se transformer en glucose dans le foie. Donc une activité physique intense va recharger votre foie en glucose grâce au glucose du muscle.
Tout bénéfice.
Alors bénéfice à court terme, donc de l'énergie, une bonne journée. Et à long terme?
L'élément clé, c'est bien sûr la santé cardiovasculaire. 3 à 4 fois moins d'infarctus. On sait aussi que ça réduit malgré tout la surcharge pondérale, qui est un facteur inflammatoire global. Ce n'est pas que l'aspect énergétique, c'est vraiment l'aspect métabolique entier du corps. Et puis, on sait aussi, probablement pour des raisons de régulation de l'inflammation, la réduction du cancer, et notamment le cancer du côlon.
Damien Mascret.
Oui, alors on sait aussi que le problème avec l'activité physique, c'est que vous avez une question de quantité. Et donc, la quantité, la fréquence, tout ça intervient. Comment on doit avoir un bon programme quand on n'est pas sportif à la base?
Alors, le programme, simple et sociologiquement casable, c'est 3 fois 30 minutes par semaine. Avec 10 minutes d'échauffement, 15 minutes à intensité moyenne, avec une perception respiratoire telle que je peux parler mais pas chanter. Là, on est grosso modo à 70-75% de ses aptitudes cardiovasculaires et 5 minutes de retour au calme. Vous faites ça 3 fois dans la semaine, vous avez coché la case de l'activité physique.
Il faut voir un médecin avant de reprendre le sport.
Oui, quand même. Parce que
à n'importe quel âge.
Oui, à n'importe quel âge, y compris chez les gamins. D'ailleurs, le Collège de médecine du sport français impose normalement un électrocardiogramme tous les 2 ans, à partir de 12 ans, pour tous les enfants qui font de la compétition. Parce que les enfants ont des anomalies cardiaques. Et contrairement aux adultes, les drames sont rarement précédés de symptômes. On dit que, allez, disons-le, la mort subite est inaugurale sur une malformation cardiaque. Alors que lorsque le quadra, le quinca fait un infarctus à l'effort,
il
le
a
plus
déjà
souvent,
eu des signes.
Il a eu des malaises, des pertes de connaissances, des douleurs thoraciques, des palpitations. Attention, si on fait ce bilan-là, tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais il faut être prudent. Et c'est vrai que rencontrer son médecin du sport régulièrement, maintenant c'est plus forcément obligatoire, c'est bien, c'est un échange, il n'y a pas que l'aptitude.
Ça motive aussi peut-être.
Bien sûr, ça met... Et puis il y a des petits conseils qui sont drainés à l'occasion de ces échanges.
Les Français ont pris 2,5 kg en moyenne pendant le confinement, ça peut être une motivation supplémentaire pour faire du sport cet été?
Oui, la perte de poids de l'ordre de 2,5 kg est largement accessible grâce à l'activité physique.
On les perd en combien de temps?
Si on fait ça bien, en un mois ou deux, c'est fini, quoi. Voilà.
C'est encourageant.
Alors, le sport et la réduction des glucides. C'est-à-dire, on dit que les sportifs, il faut qu'ils mangent des nouilles, qu'ils alternent avec les pâtes, les coquillettes et les spaghettis. C'est pas vrai, ça. Un sportif doit avoir une alimentation variée, riche en légumes et finalement assez pauvre en féculents, comme l'était celle de nos amis les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Voilà. L'intérêt du confinement, c'est que les gens, ils ont compris qu'ils pouvaient faire du sport chez eux. Et ça, avec mon petit laïus initial, c'est très important. Ils ont trouvé les boutons de l'activité à la maison. Il faut continuer. C'est tout simple.
Donc, on continue avec des programmes de coaching sur Internet, la
coaching
gym dans le
sur
salon,
Internet, oui, guidé éventuellement par son médecin du sport. Mais ce rituel qu'on a enclenché, il faut le poursuivre.
Dans un instant, on continue de parler des bienfaits de l'activité physique. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Stéphane Casqua, qui est médecin du sport. Il y a plein de bonnes raisons de se remettre au sport, on vient de le voir. Mais comment passer à la pratique? Quel sport choisir selon son âge et surtout à quel rythme s'y remettre? On en parle dans un instant avec notre invité.
15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Santé, Bien-être. Autour de la table aujourd'hui, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité, le docteur Stéphane Casqua, qui est médecin du sport à Paris. Nous parlons ensemble de la reprise de l'activité physique. Et alors, il y a une chose qui est importante, c'est le dosage de l'activité sportive. Alors, vous avez écrit un article très intéressant. Vous dites qu'il faut arrêter de ne s'entraîner que le dimanche. Pourquoi?
Oui, parce que lorsqu'on fait du sport qu'une fois par semaine, entre les deux sollicitations, le cœur se désentraîne, le cœur se désadapte, aussi bien sur le plan performance que sur le plan santé. Une étude de référence menée par le professeur Jouven, qui est cardiologue, spécialiste de la mort subite à l'hôpital Pompidou, met en évidence que si on fait du sport une fois par semaine, pendant le sport, on voit son risque de crise cardiaque multiplié par 20. Alors que si on en fait...
Par rapport au repos.
Par rapport au repos. Donc c'est l'excitation hormonale liée au sport déstabilise le cœur. Lorsqu'on en fait régulièrement et suffisamment, c'est-à-dire 3 à 4 fois par semaine, ce risque augmente encore un petit peu par rapport au repos, fois 3 à 4. Mais puisque l'activité régulière divise le risque d'infarctus par 3 à 4, le sportif régulier, pendant son entraînement, a autant de chances de faire un infarctus qu'un sédentaire dans son fauteuil. Donc c'est pas grave, parce que tout le reste du temps, il bénéficie d'une vraie protection.
Damien Mascret.
Oui, est-ce que ça veut dire que le week-end, par exemple, on doit éviter des activités physiques intenses si on fait que ça, bien sûr, hein, comme un match de foot, un tennis, un footing avec les copains, faut se méfier ?
Oui, moi je propose vraiment à mes patients et à mes sportifs au moins deux piqûres de rappel dans la semaine pour profiter, pour prendre du plaisir à l'entraînement plus ludique et plus chronophage du week-end.
Donc c'est trois fois par semaine,
l'idéal. Oui, c'est trois fois par semaine. Donc un entraînement, long entraînement ludique, type tennis ou foot le dimanche. Et puis, classiquement, mardi, jeudi, un petit peu de vélo d'appartement ou un footing. Parfois, je négocie mercredi, samedi, dimanche. Voilà.
Combien de temps le vélo d'appartement
30 minutes. 30 minutes, on a coché la case. On peut monter jusqu'à une heure.
Damien Mascret.
Et au niveau justement des activités, le fait d'être à l'intérieur ne modifie pas, ne change rien au fait qu'on active son système cardiovasculaire ?
On l'active même plus, puisqu'il y a une part du débit cardiaque qui va vers la peau pour la faire rougir, pour se refroidir, pour apporter de la chaleur en périphérie et pour transpirer.
Et ces conseils sont valables, quel que soit l'âge, trois fois par semaine du sport, même après 50-60 ans ?
On peut monter. C'est la dose qui commence à apporter des bénéfices significatifs. Mmh. Il y a une étude très intéressante menée à Framingham, qui est une ville de référence aux États-Unis, qui a été coupée en tranches par les médecins. On constate que les bénéfices de l'activité physique montent jusqu'à 3500 kcal par semaine. Ça représente environ 10 km par jour. Donc, une heure de sport par jour. Mmh. Ensuite, c'est intéressant, elle décline. Vous n'êtes pas inférieur au sédentaire, mais progressivement, vous le devenez. Ce qui nous amène aussi, pour les sportifs un peu accros, à mettre la limite supérieure. Donc ça, c'est assez intéressant. Et une étude en paléontologie, qui normalement n'a rien à voir, apporte des résultats étonnants, puisque en mettant un actimètre aux Bushmen, qui sont les derniers chasseurs-cueilleurs de cette planète, on constate qu'en plus de leur activité quotidienne, ils dépensent 3500 kcal par semaine d'activité physique et sportive.
Ils font quoi ?
Ils chassent, ils cueillent. Voilà. Donc, ils font leur boulot. Et il semblerait donc que l'être humain soit formaté, sélectionné pour faire une bonne heure de sport par jour. Et en effet, 30 minutes trois fois par semaine, c'est bien. Mais évidemment, une heure par jour, c'est mieux. Peut-être que plus, c'est pas terrible.
Oui, c'est intéressant, effectivement, d'entendre un médecin du sport rappeler que l'excès, là aussi, hein, comme tout le reste, n'est pas bon. Parce que je me souviens d'une étude parue il y a quelques années où on avait fait des prélèvements sanguins chez des sportifs qui venaient, alors certes, là, pour le coup, faire un gros effort, puisqu'ils avaient couru un marathon. Mmh. Et on s'aperçoit qu'on retrouve des bactéries intestinales dans le sang, un petit peu comme des petites septicémies, finalement, parce que la paroi intestinale a quand même souffert. Bon, on dirait que c'est un marathon.
Oui, mais c'est violent pour l'organisme.
Voilà, mais ça montre encore une fois, parce que certains enchaînent les marathons, hein, et puis maintenant, il y a les ultra-trails. Donc, ça montre quand même qu'une certaine dose de sport pour notre organisme, certes, mais l'excès, là aussi, n'est pas très bon.
Docteur Stéphane Casquois, on a compris que vous préférez l'activité physique le matin, mais bon, certains n'ont pas d'autre choix que d'en faire le soir, après la journée de travail.
Le midi aussi, si vous avez la logistique près du boulot pour prendre une douche, pour aller à la piscine, vous casez ça où vous voulez, bien évidemment. Le soir, si sociologiquement, si vous êtes calé comme ça, même biologiquement, allez-y.
Il ne faut pas que ce soit trop près de l'heure du coucher.
Oui, c'est ça. C'est parce que, comme je vous l'avais dit pour l'élévation de la température réveille. Le soir, l'élévation de la température, elle va perturber votre endormissement. Donc, on peut faire du sport le soir. On essaye de le faire pas trop près du coucher. On prend un bain frais. Voilà.
D'accord.
Ça va baisser la température. Voilà. Et le bain frais, contrairement au bain chaud, va vous apporter l'apaisement et un endormissement plus facile. On fait éventuellement quelques étirements, un peu de méditation, pour enclencher l'apaisement inhérent au sommeil.
Damien Mascret.
Oui, est-ce qu'il y a des types de sportifs qui sont du matin et d'autres qui sont du soir ?
Oui, bien sûr. On le constate aisément. On a des températures corporelles, des rythmes de température corporelle qui sont différents. Et certains individus sont du matin. Ils se réveilleront spontanément, précocement. C'est-à-dire ils auront le fameux pic de cortisol, qui est l'hormone de la vigilance, du stress, entre guillemets, ou en tout cas de l'adaptation, plus tôt le matin, alors que les autres l'auront plus tardivement. Et il est vrai que les gens du matin sont plus synchronisés aux rythmes sociaux qu'on nous impose classiquement dans notre civilisation.
Et est-ce qu'on perd plus facilement du gras ? Est-ce qu'on constitue plus facilement du muscle selon qu'on travaille le matin ou le soir ?
Alors, on brûle plus de graisse, incontestablement, quand on travaille à jeun.
Oui.
Donc, la façon la plus aisée d'être à jeun, C'est la nuit, c'est la nuit. C'est-à-dire que vous, voilà. Mmh. Il n'y a même pas besoin, en effet, de déjeuner, puisqu'on a vu, on a notre sucre dans notre muscle. On peut même trichailler un petit peu. Ce n'est pas du dopage, Seigneur. Un petit café pour mobiliser les graisses et élever un tout petit peu la fréquence cardiaque. Et on accroche plus aisément son activité sportive.
Et au bout de combien de minutes est-ce qu'on attaque nos réserves ?
Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des lieux communs qui traînent.
Ouais.
On dit qu'il faut faire du sport 45 minutes pour attaquer les graisses. Mmh. Ce n'est pas ça du tout. C'est une étude soviétique qui a été mal traduite. En fait, il faut faire une activité physique suffisamment peu intense pour qu'elle puisse être poursuivie 45 minutes.
Ça veut
dire l'effort est intense, plus il consomme de graisse. C'est simple. Voilà.
Donc ça veut dire qu'il vaut mieux marcher 45
oui,
minutes.
Oui, mais quand vous marchez, vous, globalement, vous dépensez peu de calories. Mmh. Vous dépensez une proportion élevée de graisse, mais peu de calories. Alors il y a, en effet, l'énergie qui monte et la proportion de graisse qui descend. À la croisée des chemins, il y a ce qu'on appelle le lipomax. C'est l'intensité à laquelle on consomme le maximum de lipides. Lipomax. Et elle est grosso modo à 60-70% de nos capacités cardiaques, c'est-à-dire un petit peu en dessous du « je peux parler mais pas chanter ». Et donc l'activité quotidienne en tant que telle brûle des graisses. Quand vous marchez, vous brûlez des graisses. Quand vous restez debout, vous brûlez des graisses. Lorsque vous êtes en posture sur votre fauteuil, votre dos brûle des graisses.
Et faire des sports tranquilles, du yoga, du pilates, du tai chi, ça a quand même des bénéfices
Non, mais
pour le système cardiovasculaire aussi.
Alors, un peu, c'est vrai, mais on n'a pas évoqué, et il faut le faire, les bénéfices locomoteurs de l'activité physique. Parce qu'une articulation, ça s'entretient quand ça s'articule. C'est mené par des muscles qui sont bien plus aptes à protéger les articulations lorsqu'ils sont forts, endurants, coordonnés. Ça a été validé pour la colonne vertébrale. Il faut faire bouger tout ça pour donner de la force, de la coordination et de l'endurance.
On va poursuivre cette conversation avec vous dans un instant. Docteur Stéphane Casqua, médecin du sport à Paris.
Europe 1.
Quel sport choisir selon son âge? Comment éviter les crampes? Comment éviter les courbatures? Nous continuons de parler du sport dans un instant.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous parlons aujourd'hui des bienfaits du sport et de la meilleure façon de s'y mettre ou de s'y remettre cet été. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret et de notre invité en studio, le docteur Stéphane Casqua, qui est médecin du sport à Paris. Stéphane Casqua, si vous deviez nous donner votre top 3 des sports bons pour la santé avant et après 50 ans, vous nous dites quoi? Vous n'aimez pas les tops.
Si. Non, mais c'est
réfléchi.
En fait, non, j'ai réfléchi. Natation, vélo, course à pied. Voilà.
Natation, vélo, course à pied.
Des sports d'endurance qui travaillent l'ensemble de l'appareil locomoteur. Ça me paraît parfaitement adapté. On pourrait y rajouter un petit peu de renforcement musculaire.
Ça vaut après et avant 50 ans.
Ah oui, bien sûr.
Damien Mascret.
Oui, après 50 ans, si on n'aime pas courir, on peut aussi marcher.
Bien sûr, la fameuse marche nordique qui bosse en plus les membres supérieurs et gaine le dos.
Voilà, c'est vrai qu'on a longtemps dit aux gens notamment qu'il y avait des douleurs articulaires ou de l'arthrose, des choses comme ça, qu'il fallait ménager les articulations. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce discours.
Alors, on n'est plus du tout dans le discours de la protection, de l'économie articulaire. On a au contraire mis en évidence que les gens qui faisaient une activité physique voyaient leur cartilage préservé. Zatarian a mené une grande étude sur 1500 arthroses de hanches, 1500 arthroses de genoux. Ceux qui faisaient de la course à pied ne voyaient pas leur arthrose progresser si ils faisaient moins de 30 à 40 km par semaine. Donc là encore, on a une dose raisonnable. Mais 30 à 40 km par semaine, on est largement à nos 3 fois une heure.
C'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'il est possible de devenir accro au sport sur le tard? Par exemple, de devenir complètement fou de footing après 40-50 ans alors qu'on n'a jamais été entraîné?
Il y a probablement des profils addictifs.
Ah.
C'est-à-dire qu'être addict au tabac et au sport, c'est voisin.
Compatible.
Être addict au travail et au sport, c'est assez voisin. D'ailleurs, il y a vraiment des voies de passage. C'est-à-dire que dans ma patientèle, les gens qui font beaucoup de sport sont très investis professionnellement.
Damien ?
Oui, alors, effectivement, moi je me souviens d'une étude à Amsterdam au congrès de la Société européenne de cardiologie, qui avait été présentée d'ailleurs par un Français, et qui montrait que même à partir, c'était des 55-70 ans qui se mettaient au sport, donc qui en avaient peut-être fait dans leur jeunesse, mais qui depuis n'en faisaient plus du tout, et qui en se remettant au sport, finalement, récupéraient à nouveau des bénéfices. Donc on voit que vraiment à tout âge, c'est bon de se remettre au sport.
On a quand même un capital musculaire de départ, non, qu'on a hérité peut-être de l'enfance.
Alors, on a un capital d'aptitude génétique. Et les femmes sont essentielles, puisque ce qui nous donne une grande partie de nos aptitudes aérobies, c'est-à-dire d'endurance, sont conférées par les mitochondries, qui sont nos petites centrales énergétiques, qu'il n'y a pas dans le spermatozoïde et qu'il n'y a que dans l'ovule. Donc nos aptitudes aérobies, c'est grâce à nos mamans. Donc c'est à savoir si votre maman est très sportive ou a des aptitudes, eh bien vous en avez probablement.
Ça, c'est génétique. On a parlé des crampes en début d'émission. Il y a aussi le problème des courbatures. Alors, on a parfois l'impression que c'est bien d'en avoir parce que ça montre qu'on a bien travaillé. Quels sont vos conseils pour les éviter?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la courbature, c'est lié au travail de freinage. C'est-à-dire que lorsque vous descendez une pente ou lorsque vous réceptionnez une foulée en trottinant, vous avez les membranes musculaires qui partent dans un sens et les fibres qui tirent dans l'autre. Et ce sont ces micro-dilacérations qui, 48 heures après, au moment du nettoyage par les globules blancs, deviennent douloureuses. Ça veut dire que quand il n'y a que de la poussée, quand il n'y a pas de freinage, il n'y a pas de courbature. Ça, c'est une grosse pub pour le vélo et la natation.
Ah, voilà.
Le vélo, il n'y a pas de freinage, vous ne réceptionnez pas, vous vous contentez de pousser. En natation, c'est pareil. Et c'est un gros coup de pub pour la diversité, notamment dans le cadre de la reprise pendant les vacances. S'il y avait une façon de bouger raisonnablement, ce serait d'alterner les activités. Je fais un jour un petit footing, le lendemain une balade ultra cool à vélo et le surlendemain je vais nager.
C'est bien masqué.
Et si malheureusement on a des courbatures, qu'est-ce qu'on fait le jour des courbatures? Est-ce qu'on s'abstient pendant un jour, deux jours, trois jours? Est-ce qu'on reprend? Vous savez, c'est un peu comme l'alcool, on dit qu'il faut reboire rapidement, donc ce n'est pas un conseil que je donne, évidemment.
Alors, en effet, le traitement des courbatures, ce n'est pas le repos. Parce que le repos, c'est le déconditionnement. Et ça, c'est important. Il faut reprendre quand on n'a pas trop mal. Et on peut notamment reprendre avec des activités justement sans freinage, non excentriques, comme on dit, du vélo et de la natation. Mais on sait aussi que ça ne sert pas à grand-chose. Massage et activités dites de récupération active n'ont pas de grande vertu sur les courbatures.
Quand il fait très chaud, l'été, il y a des conseils pour l'hydratation peut-être, pour éviter les courbatures justement?
Alors, de l'hydratation, pas trop d'hydratation. On sait que ceux qui s'hydratent trop dans les ultra-trails, dans les grosses courses, qui sont justement rigoureux, qui arrivent dans les derniers, qui boivent, ils font des hyponatrémies, c'est-à-dire ils diluent leur corps, ils ont moins de sodium. Il faut boire raisonnablement. Il faut boire maximum 500 ml par heure. Et puis quand on va courir une demi-heure, qu'on va faire une heure de vélo, on ne s'encombre pas la tête avec une logistique décourageante, on ne boit pas.
Damien Mascret.
Oui, il y a toujours des grands débats sur les étirements. Alors voilà, on dit effectivement qu'il faut les faire un petit peu avant l'effort, qu'il faut en faire après. Puis on a d'autres médecins qui nous disent attention, si on fait des étirements après l'effort, on favorise à moyen terme les blessures. Quelle est la position aujourd'hui des médecins du sport?
Alors c'est simple. En fait, il faut être un peu holistique et comprendre ce qui se passe. L'étirement, c'est une contrainte mécanique pour adapter une contrainte mécanique. Tout est une question de dosage. C'est-à-dire que si j'ai des courbatures et qu'en plus je m'étire, ben je reproduis le mécanisme de la courbature, c'est-à-dire la membrane qui part dans un sens et la fibre qui tire dans l'autre. Donc je vais être délétère. Je peux faire des étirements après une séance dure, en sachant que ça ne va pas m'aider à récupérer, ça va m'aider à décompenser, c'est-à-dire à aggraver l'intensité ou à accroître l'intensité de ma séance. Il ne faut pas faire trop d'étirements, ou en tout cas des étirements statiques, quand on a une gestuelle à forte amplitude, typiquement le foot ou la danse, parce que quand on s'étire de façon statique, on apprend à son muscle à se relâcher et donc il ne réagit pas correctement lorsqu'on le remet en tension. Il ne protège plus l'articulation et il ne se protège plus lui-même. Vous verrez dans les échauffements de Ligue 1, maintenant, depuis quelques années, il n'y a plus d'étirements statiques, ils font que des étirements balancés, on dit balistiques, pour rendre au muscle sa vertu protectrice en fin de course.
Quels sont les accidents les plus fréquents chez les sportifs l'été? Alors, ça inclut aussi les sports nautiques. Il y a aussi, on peut faire du canoë, du paddle, du surf. Il y a peut-être aussi un problème de noyade. Il ne faut pas non plus surestimer ses capacités.
Alors, dans mon domaine, ce qu'on sait, c'est que le traumatisme le plus fréquent, il y en a 6000 par jour, c'est les entorses de cheville.
Et après, ça vient de la chaussure?
Ça vient de la racine
de
qui était en dessous.
La racine
qui était en dessous.
Le sol.
Non, voilà. Quand on reprend, c'est vrai qu'il faut... Du coup, ça me permet de faire un petit message important et sympa. On peut courir sur macadam. Il y a de très bonnes chaussures qui font qu'il n'y a pas de souci. Et maintenant, on envisage un peu de trottiner sur la pointe des pieds en restaurant les vertus amortissantes de la cheville. On parle de foulée minimaliste. Oui. Plutôt que de ne pas courir, allez courir sur macadam avec des bonnes chaussures, il ne se passera rien.
D'accord. Ouais. Donc attention à l'entorse quand même.
Attention à l'entorse, mais sur macadam, la plupart du temps, c'est plus régulier.
Est-ce que quand on est en surpoids, effectivement, il y a des précautions particulières à prendre, je ne sais pas, au niveau des chaussures ou de la quantité d'effort?
Alors c'est très intéressant, parce qu'il est probable que le surpoids ne soit pas un réel facteur de risque. Parce que ce qui est un facteur de risque, c'est l'énergie que vous mettez à l'impact. Et puisque l'énergie que vous mettez à l'impact, c'est l'énergie cinétique, 1,5 de MV2, votre vitesse qui est au carré est plus délétère que votre masse. Donc les sportifs doués et minces se cassent beaucoup. Moi, j'évoque souvent le syndrome du gros moteur à petite roue. Celui-là, il a un gros moteur et il a un appareil locomoteur fragile. Et il ne passe pas la barrière du haut niveau.
Alors, c'est quoi comme profil de sportif, le gros moteur à petite roue?
C'est le sportif qui est doué sur le plan énergétique.
D'accord.
Qui a des bonnes mitochondries léguées par sa maman, mais qui a un os fragile ou un tendon avec un collagène pas trop parfait et qui va se blesser. Donc, celui-là, il faut qu'il fasse attention. Celui-là, à mon avis, a plus de risques que l'individu en surcharge qui commence avec humilité.
On n'a pas parlé des enfants. Comment motiver les enfants à faire du sport leur donner le goût de l'effort?
L'Inserm nous dit. Ça sert à rien de l'emmener au football le mardi, le jeudi et au match le dimanche. Ça sert à rien. Ah parce bon qu'il va arrêter.
Alors qu'est-ce qu'on lui propose?
Eh bien, on fait du sport avec lui. Il y a que ça.
C'est l'effet
marche.
D'entraînement des adultes.
Oui, c'est l'effet. C'est l'éducation passive. C'est l'éducation par l'exemple. Parce que après le foot, justement, lorsque la vie devient compliquée, on arrête le foot. Et si vous avez donné à votre enfant une image de sport incompatible avec une vie familiale, eh bien, il reproduira ce schéma d'incompatibilité entre le sport et une vie familiale et professionnelle.
Merci pour tous ces conseils, on va les retenir. Maintenant, il n'y a plus qu'à, on va dire. Merci beaucoup, docteur Stéphane Casqua, d'être venu en studio pour nous apporter votre expertise de médecin du sport.
Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec les conseils de notre coach psycho pour prendre soin de notre mental cet été et la chronique sexo de Damien Mascret. À tout de suite.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et tous les jours, vers 15h40, nous parlons des habitudes qui peuvent améliorer le bien-être au quotidien et prévenir les maladies chroniques. Tous les jours, un expert nous donne des pistes et de la motivation pour améliorer nos modes de vie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un médecin oncologue. Bonjour, docteur Thierry Bouillet.
Bonjour, madame Le Gall.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc médecin à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Alors, il y a un message de santé publique qui tourne en ce moment à la télé et qui nous rappelle que 40% des cancers serait évitable si on change un peu nos habitudes. Alors si on vous demande trois habitudes de base pour préserver sa santé et prévenir les maladies chroniques en général, vous nous dites quoi?
On dit des choses très simples. C'est bonheur, faire et poursuivre.
Bonheur, faire et poursuivre.
Bonheur, faire et poursuivre, c'est-à-dire changer votre mode alimentaire, l'activité physique et sportive et les facteurs de risque. On va tout de suite aller à l'alimentation, c'est des choses qui sont connues. Éviter les graisses saturées. Éviter les sucres d'absorption rapide, tout ce qui est agréable, le petit bonbon, le petit gâteau, ça c'est à éviter. Éviter les alcools, en particulier les alcools forts, et éviter les mets trop salés. Donc ce sont des choses très simples, qu'on connaît tous, mais qu'on ne fait pas. Qu'il faut simplement mettre en place en allant choisir son alimentation et pas absorber n'importe quoi.
Et ça compte énormément sur la survenue des cancers par exemple ?
C'est gigantesque. Ça sera probablement, avec l'activité physique et sportive, les gros facteurs de bénéfices. En effet, comme le disent les autorités de tutelle en France, mais aussi en Europe, on a en gros 30 à 40% des cancers qui sont totalement évitables. Donc vous imaginez un tiers de ces patients qui ont une destruction de leur vie et de leur vie familiale qui pourrait être évitée. Donc des choses simples, les gras, les graisses, les sucres d'absorption rapide, les plats trop salés et l'alcool.
Ça, on évite, c'est le premier conseil.
C'est fondamental. Déjà, si vous faites ça, c'est superbe. Allez faire votre marché, évitez peut-être certains plats cuisinés.
Deuxième conseil.
L'activité physique et sportive, elle est très simple. C'est une activité qui vous fait plaisir. Donc toute activité marche, à condition d'y trouver bonheur, à condition qu'elle soit régulière, sans chercher à devenir un athlète de haut niveau. Donc pas de choses intenses. C'est une heure, trois fois par semaine. Ça peut être une heure de marche intense, trois fois par semaine.
Alors intense, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en gros, il faut que vous fassiez vos 5 km dans l'heure.
D'accord.
Pour faire simple. Sauf si vous êtes en montagne, c'est 20 minutes d'activité physique et sportive par jour intense. Donc on peut soit le faire trois fois par semaine, soit le fractionner 7 jours sur 7. Ce qui compte, c'est de le faire très régulièrement en travaillant tout le corps. C'est-à-dire pas juste les bras, tout le corps doit travailler. Des abdominaux aux racines des cheveux, tout doit travailler sans intensité violente et en y trouvant plaisir.
Damien Mascret.
Alors l'activité physique, effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est pas forcément du sport très intense ou de haut niveau, mais néanmoins, si on est, par exemple, soit un petit peu âgé, soit un petit peu avec de l'arthrose, soit avec du surpoids, est-ce qu'on aura quand même, avec une petite activité, les bénéfices en termes de santé ?
Alors oui, à tout, dans toute situation, nous on fait de l'activité physique et sportive en cancérologie, donc avec des gens qui ont des comorbidités et puis des maladies cancéreuses graves, on arrive toujours à trouver quelque chose à leur faire faire. Même si vous avez de l'arthrose, le vélo, ça peut se faire. La natation, ça peut se faire. Si vous êtes âgé, vous adaptez votre programme à ce que vous faisiez, ce que vous pouviez faire, en demandant conseil à votre médecin traitant qui connaît l'état de votre cœur, quitte à se faire aider au début par un kinésithérapeute, voire un coaching sportif.
Alors, alimentation, activité physique, le troisième critère pour bien se porter.
Pour bien se porter, il y en a deux. D'une part, le tabac, évidemment, ce sont tous les cofacteurs. Évidemment, zéro cigarette, rien, pas de tabac. C'est clair, ce n'est pas une cigarette par-ci, une cigarette par-là, c'est zéro. Et lutter contre tous les facteurs de risque viraux. On a des campagnes en France de vaccination contre l'HPV. Il y a des campagnes de vaccination pour les enfants, éventuellement les adolescents, et de recherche d'HPV au niveau du col utérin. C'est probablement fondamental pour la pathologie gynécologique et la pathologie oropharyngée.
Donc ça veut dire respecter les calendriers vaccinaux, faire de la prévention.
Ça veut dire accepter la vaccination HPV pour les jeunes,
contre le papillomavirus
pour les jeunes, et puis éventuellement faire une surveillance régulière de votre sphère gynécologique, qui est obligatoire tous les deux ans, enfin fortement conseillé tous les deux ans, et consulter à la moindre pathologie ORL.
On a parfois le sentiment que le stress est aussi un facteur aggravant ou déclenchant des maladies chroniques. C'est un petit peu exagéré.
Alors, en cancérologie, ça a été étudié dans beaucoup de sens. On n'a jamais rien trouvé de très clair. On ne peut pas dire. On retrouve toujours un facteur de stress, que le stress, c'est toute la vie. Et je pense que non. Par contre, oui, en cardiologie, vous n'oubliez pas que là, on est sur une prévention de la maladie cancéreuse, donc 40% de cancer en moins. Mais il y a aussi un impact sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies métaboliques comme le diabète, sur tous les troubles neurodégénératifs. Donc on est vraiment dans un changement de la qualité de vie du patient, dans une activité de bonheur pour être maintenu sur toute la vie. Et à quel que soit l'âge, arrêtez de fumer, changez votre mode alimentaire, changez votre mode d'activité physique, aura un impact sur votre cœur, sur votre diabète, sur vos troubles neurodégénératifs, donc vos fonctions intellectuelles entre autres, et sur votre risque de maladie cancéreuse. Donc faites du sport, mangez et vivez. Il y a une phrase d'Avicenne, puisque vous me disiez que j'étais Avicenne, qui disait... Ne cherchez pas à donner de la bonne santé, donnez juste à quelqu'un l'activité physique et une bonne alimentation.
Eh bien c'est...
C'était au 9e siècle.
C'est un beau conseil, Damien.
Oui, vous avez dit le mot bonheur, effectivement, on insiste souvent là-dessus. Alors on comprend bien, effectivement, l'impact d'être heureux sur la qualité de vie, ça paraît un truisme. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a des données qui montrent là aussi un effet patent, positif, j'allais dire, sur les comorbidités, les maladies associées, sur le cancer lui-même, sur son évolution ? Ou est-ce qu'on est simplement sur l'aspect, le volet psychologique, qui est évidemment très important ?
On n'a pas de données très claires, mais je pense que il est clair qu'un patient, quelle que soit sa pathologie cardiovasculaire, diabète, Alzheimer ou en particulier la pathologie cancéreuse, s'il se trouve un projet de vie, il se trouvera probablement bien mieux, en meilleure santé, plus à même d'affronter la maladie. Donc oui, je dirais qu'entre guillemets, tout ce qui est soins de support, quelle que soit la pathologie, action de psychologie, c'est fondamental.
Merci beaucoup, docteur Thierry Bouillet, pour ces conseils de prévention santé. On rappelle que vous êtes médecin oncologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être jusqu'à 16h. Et dans cette dernière séquence, nous parlons intimité avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue. Aujourd'hui, vous vouliez nous parler de la taille du pénis.
Bah oui, parce que c'était une grande question pour les hommes. Hein. Une étude a été réalisée auprès de 52 000 internautes qui montrait qu'un homme sur deux voulait un pénis plus grand. Alors ça veut dire aussi qu'un homme sur deux était satisfait. Et puis dans cette étude, on s'apercevait aussi qu'il y avait un homme sur 500 qui voulait un pénis plus petit. Vous voyez, c'est beaucoup plus rare.
Est-ce qu'on a les tailles standards?
Alors, on a les tailles standards. Le King's College de Londres a calculé ça. Hein. Alors, pour calculer, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne peut pas demander aux hommes de venir en érection. C'est, voilà, c'est un peu délicat. Puis quand on leur demande de calculer eux-mêmes, c'est un peu faussé.
Ils rajoutent des centimètres.
Bah oui, souvent. Donc, ils ont trouvé un moyen qui est assez fiable anatomiquement. Il y a une bonne corrélation. C'est simplement qu'on tire sur le pénis au repos et on a la longueur à peu près en érection. Donc, c'est en faisant ça que le King's Collège a pu calculer sur plus de 15 000 hommes, tout de même. Hein.
C'est un bon échantillon.
C'est un bon échantillon que la taille moyenne du pénis était de 9 cm au repos et de 13 cm en érection. Alors attention, 13 cm en érection, c'est vraiment la moyenne. Moi, je trouve plus intéressante l'étude de l'Université de Californie qui, en 2006, avait calculé plutôt des fourchettes et s'était aperçu que 68% des hommes, donc 2 hommes sur 3, avaient un pénis en érection qui mesurait entre 12 et 15 cm. Donc, on peut retenir que, voilà, statistiquement, parce qu'il n'y a pas de norme, mais statistiquement, le plus fréquent, c'est un pénis de 12 à 15 cm en érection. Si on élargit encore un petit peu la focale entre 10 et 17 cm, là, on a 95% des hommes qui, donc, ont un pénis de 10 à 17 cm. Ça en laisse encore 2,5% qui sont en dessous de 10 cm et 2,5% qui sont au-dessus de 17 cm.
Alors, qu'en pensent les femmes? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des études là-dessus.
Alors, bien sûr, les femmes ont été également interrogées. Hein, donc, près de 9 femmes sur 10 se disent très satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire, ce qui devrait rassurer quand même beaucoup d'hommes. Et ça, c'est constant dans toutes les tranches d'âge, on trouve ça. Alors, objectivement, on a quand même demandé aux femmes, OK, vous êtes satisfaites, mais qu'est-ce que vous pensez de la taille de son pénis? Est-ce qu'il est, d'après vous, il est petit ou il est grand? Eh bien, là aussi, comme pour les hommes, 2 femmes sur 3 pensent que le pénis est de taille normale. Et quand même, 1 sur 4 trouve qu'il est un peu grand. On n'en a finalement que 6% qui trouvent que le pénis de leur partenaire est petit. Et même dans ces 6%, on en a encore 1 sur 3 qui est quand même très satisfaite d'un petit pénis. Donc vous voyez, finalement, au total, on a 2% des femmes seulement qui aimeraient que leur partenaire ait un pénis plus grand. Et à l'inverse, on a 5% des femmes qui aimeraient que leur partenaire ait un pénis plus petit.
Et on a 50% des hommes qui s'inquiètent. Donc,
on a 50%.
Il faut les rassurer.
Alors, on a 50% des hommes qui s'inquiètent, mais on a surtout 50% des hommes qui sont un petit peu gourmands, si on peut dire, hein, puisque même parmi ceux qui ont un long pénis, il y en a 22%, eh bien, 1 sur 7 voudrait un pénis encore plus grand. Vous voyez, il y a un peu cette idée que plus il est grand, mieux c'est. Or, on sait qu'à l'inverse, plus il est grand et plus il aura des risques de troubles d'érection, parce qu'effectivement, eh bien, le volume à remplir par le sang lors de l'érection sera plus important. Donc finalement, il y aura plus de problèmes. Mais globalement, hein, que ce soit à 20 ans ou à 60 ans, la moitié des hommes voudraient un pénis plus long.
Merci Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre santé et votre bien-être, on les partage tous les jours de 15h à 16h dans 100 rendez-vous sur Europe 1. On se retrouve donc lundi à 15h.